Donc, nous sommes à l'Opéra Comédie avec un jeune metteur en scène espagnol, Rafael Villalobos, 35 ans. Bonjour Rafael.
Bonjour, 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 et merci.
Alors, vous êtes déjà venu donc à Montpellier, vous avez donné une production du Barbier de Séville, et puis une production de la Tosca, qui a fait beaucoup parler d'elle, pas qu'à Montpellier d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, et que vous allez encore donner, je crois qu'il y a encore des reprises d'ici la fin de l'année, c'est cela,
Barcelone. Hicimos una reposición en el liceo el pasado mes de enero.
Il y a eu une reprise au Lycée en janvier dernier qui a été beaucoup commentée et a eu plein de bonnes critiques. Et le mois prochain, nous donnerons Tosca à Séville.
Qui est votre ville d'origine. Alors, pour rappeler à nos auditeurs, alors effectivement, vous êtes originaire de Séville. À Séville, vous avez étudié l'architecture.
Sí, comencé estudiando arquitectura en Sevilla y enseguida me marché a Madrid, donde hice arte dramático.
J'ai étudié l'architecture à Séville et continué avec l'art dramatique à Madrid, puis un master de musique à Barcelone. Un peu plus tard, un diplôme de mise en scène à Londres.
Et puis, j'ai vécu en Roma parce que j'étais pensionnaire, non, se dit en français.
Si, pensionnaire.
Ensuite, j'ai été artiste en résidence à l'Académie royale espagnole à Rome. À partir de là, j'ai commencé à travailler un peu partout en Europe, ce dont je suis très heureux.
Alors, maintenant, vous êtes un jeune metteur en scène, mais avec déjà une carrière derrière
joven, cada día un poco menos joven, ¿no?
Pero chaque jour un peu moins jeune.
Este año, este mes, se cumple 10 años que gané el premio europeo en Viena de dirección de escena.
Ça fait 10 ans ce mois-ci que j'ai gagné le prix de mise en scène à Vienne et ce fut le début de ma carrière. Tout d'abord en Allemagne, à Wiesbaden, puis en Espagne et en Italie. Depuis 10 ans, j'ai eu la chance de travailler avec des théâtres et compagnies très intéressantes, comme Montpellier ou Vienne, La Monnaie à Bruxelles, le théâtre Van der Veen, le Lycée.
Alors, avec un répertoire, si je puis dire, très varié, hein,
si.
je regardais rien que pour la saison 2022-23, hein, Fieldglass, avec un Orphée de Fieldglass, du flamenco, un projet pluridisciplinaire autour de l'écrivain
si.
José Saramago.
José Saramago, y también,
et puis Padre Soler.
Martín Soler, l'arbre de Diana, que es clasicismo, y luego barroco en España con Lucrecia.
Martín Soler et l'arbre de Diane pour le classique, puis le baroque espagnol avec le viol de Lucrece.
En realidad, yo soy muy melómano.
Oui, un répertoire varié. Je suis très mélomane et aime différentes musiques et ma carrière me permet d'expérimenter divers répertoires et de découvrir petit à petit où je me sens le plus à l'aise.
Poco a poco ir descubriendo en cuál me encuentro más cómodo. Por ejemplo, con Gluck es la segunda vez que hago una ópera de Gluck.
Par exemple, c'est le deuxième opéra de Gluck que je fais, après Orphée il y a quelques années. C'est un compositeur avec lequel je me sens très à l'aise et je pense avoir les outils pour le mettre en scène.
Alors justement, je me posais la question, Iphigénie en tauride de Gluck, que beaucoup de spécialistes considèrent comme le chef-d'œuvre de Gluck, même si c'est moins connu qu'Orphée et Eurydice, ça a été créé en 1779. Le compositeur avait 65 ans, Mozart, lui, en avait 23, on peut dire ça. Mais avec cette nouvelle production, tout d'un coup, Iphigénie en tauride devient un opéra contemporain, puisqu'il est joué aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous de contemporain qui fait que cet opéra de Gluck résonne ou est avec notre époque ?
Bueno, en realidad, yo creo que Iphigénie es una ópera que se conecta muy bien con diferentes etapas a lo largo de la historia, porque en realidad habla de algo muy humano, o desgraciadamente muy humano, que es la guerra y sobre todo.
Je crois qu'Iphigénie s'accorde bien avec différents moments de l'histoire, car il parle de choses très humaines, comme la guerre et surtout les guerres de frontières et comment celles-ci touchent les familles.
Desgraciadamente vivimos una guerra actual en Europa, en el borde entre Ucrania y Rusia. exactement en le même lieu.
Nous vivons, hélas, aujourd'hui, une guerre en Europe, entre l'Ukraine et la Russie, en un lieu qui est précisément celui de la Tauride. Donc, Iphigénie en Tauride se déroule dans un lieu aujourd'hui en guerre.
Mais le plus important pour moi, tiene que ver no solo con hacer una referencia a esa guerra actual que, como digo, nos afecta a todos, sino con la producción. Para mí es importante intentar recuperar lo que significa lo que significaba la tragedia griega en Grecia, ¿no? Que tenía mucho que ver con el desarrollo de la democracia. Para los atenienses, la tragedia como género.
Mais le plus important pour moi n'est pas tant cette guerre qui nous touche tous que de tenter de saisir ce que signifiait la tragédie de la guerre en Grèce, qui a pour moi beaucoup à voir avec la naissance de la démocratie. Pour les Athéniens, la tragédie avait un sens politique important et n'était pas qu'un loisir, comme elle le sera à Rome. Elle était un préalable au débat sur les lois et leur développement à l'Assemblée, avant de les promulguer et les appliquer. Nous avons perdu cette étape préalable qui permettait de donner une tribune à ce qui touchait le peuple au travers du spectacle.
Entonces, para mí en esta producción era importante hablar de tres conceptos. Uno, la tragedia, que el propio género de tragedia debe ser siempre contemporáneo. No tiene sentido.
Dans cette production, il est important pour moi de développer trois concepts. 1. La tragédie doit toujours être contemporaine, sinon elle n'a pas de sens. Le deuxième est le lien qu'il peut y avoir entre la guerre et l'histoire de la famille d'Iphigénie et ce que vivent aujourd'hui les familles de la Crimée et du Donbass, l'ancienne Tauride.
En ambos lados de la actual guerra, siendo la región de Crimea y Donbass la misma región de Tauride. Y la tercera tiene que ver con el concepto de la cultura como búnker, como refugio contra la barbarie, ¿no? En Iphigénie dicen, repiten todo el rato además la palabra barbarie, barbar, ¿no?
Y le troisième est la culture comme bunker, comme refuge contre la barbarie. Je relis cela à l'un des épisodes les plus douloureux de cette guerre pour moi, avec ces personnes réfugiées dans le théâtre de Mariupol qui a été bombardé.
Dramático de Mariupol, ¿no? Con todas las personas que fueron al teatro a refugiarse y fue bombardeado. A mí me afectó muchísimo.
Cela m'a particulièrement touché car pour moi le théâtre est un lieu sacré et devrait aussi être un lieu de refuge. C'est pourquoi dans cette production je revendique le théâtre comme bunker culturel contre la barbarie.
De algún modo reflexionar o reivindicar, mejor dicho, el teatro como un búnker de cultura y la cultura como salvaguarda en contra de la barbarie.
Alors oui, je comprends mieux ce que quand vous dites, vous avez déclaré, ça a été beaucoup repris dans les médias, hein, que pour vous l'opéra était un outil de transformation sociale.
Sí, hein, siempre.
Una herramienta. Hein,
debe serlo siempre, claro.
Alors qu'en France, alors je ne sais pas la situation en Espagne, très souvent, l'opéra est plutôt considéré comme un privilège ou un symbole d'un élitisme de la bourgeoisie, voire un fossé de génération, c'est un truc pour les vieux, c'est pas pour les jeunes, quoi. Du coup, vous êtes un peu à contre-courant avec cette affirmation.
Non,
et puis je sais que les jeunes à l'opéra, pour vous, c'est quelque chose de très important aussi.
Sí, para mí es una cuestión. Yo siempre digo que la ópera es elitista. No solamente, no es una cuestión de precios o de entradas, porque hay entradas más caras para otros espectáculos o para el fútbol. La ópera es elitista cuando utiliza recursos públicos solamente para crear espectáculos que de algún modo sirvan como entretenimiento a un grupo pequeño de la población.
C'est pour moi une question toujours vive que celle de l'élitisme de l'opéra. Il ne s'agit pas que du prix des places, car il y a d'autres spectacles encore plus chers. L'opéra est élitiste quand il utilise des moyens publics pour le loisir d'un petit groupe. Si l'opéra est essentiellement financé par des fonds publics, il doit concerner tous les citoyens. Il devient un genre bourgeois quand il n'est qu'un passe-temps pour un groupe restreint de citoyens.
Inclusivo cuando intenta apelar a todos los ciudadanos, ¿no? Yo siempre digo que yo intento hacer espectáculos para el espectador que quiere venir, para el espectador que quiere venir, para el espectador que viene, para el que quiere venir y no puede.
Je dis toujours que j'essaie de créer des spectacles pour ceux qui veulent venir. pour ceux qui viennent, pour ceux qui veulent venir et ne le peuvent pas, mais aussi pour ceux qui ne viennent pas et ne veulent pas venir, car ce sont leurs impôts qui sont utilisés. Je considère que si nous utilisons des fonds publics, nous devons produire des spectacles qui portent une réflexion sur toute la société.
De la sociedad. Y en realidad esto tiene mucho que ver con la ópera como género, porque la ópera nace como una copia de la tragedia. Y como he dicho antes, la tragedia en Grecia tiene un componente de reflexión social. Entonces,
cela a à voir avec l'histoire de l'opéra qui est née de la tragédie. Comme je le disais, en Grèce, la tragédie était porteuse d'une réflexion sociale, et lorsque nous créons un spectacle, nous essayons d'avoir cette réflexion, et alors nous ne sommes pas élitistes. Mais si nous utilisons l'argent public pour que quelques personnes oublient leurs problèmes, alors oui, nous faisons de l'élitisme et utilisons mal l'argent public.
Una parte pequeña de la ciudadanía venga a olvidarse de sus problemas, entonces sí estamos siendo elitistas, porque estamos mal utilizando esos recursos públicos.
Bien, il y aurait eu plein de choses dont j'aurais voulu parler avec vous, de Benjamin Britten, qui est très important pour vous, et d'autres choses. Mais il y a une répétition qui s'annonce.
Sí,
donc,
los músicos llegan.
Voilà, on entend les musiciens qui commencent.
Y además, estamos deseando, estoy deseando.
Les musiciens arrivent car c'est une répétition avec l'orchestre. Un moment merveilleux qui est toujours aussi un moment important pour moi.
Bien, merci beaucoup, Raphaël.
Muchas
et puis, bonne répétition.
Muchas gracias.